journée selon Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut, comment ça va?
Ben ça va bien, toi?
Très bien, merci.
Ben, c'est un beau mardi ensoleillé et c'est une journée tout indiquée pour faire des annonces à Ottawa. Peut-être un peu surprenante, comme décider d'acheter le pipeline Trans Mountain et de nationaliser tout ça. Est-ce que toi, ça t'a surpris?
Oui et non. Oui, parce que c'est toujours une mesure, comment je te dirais, d'exception de nationaliser quelque chose, surtout dans ce siècle-ci, disons, dans les années 60-70, ça se voyait davantage, puis ça a souvent été compréhensible. René Lévesque a fait ça avec, par exemple, l'hydroélectricité. Le Québec a nationalisé la production hydroélectrique, puis ça a été bon pour les Québécois. Dans ce cas-là, je suis pas si surpris que ça, Ève-Marie, c'est que les signaux qui avaient été envoyés par le gouvernement, c'est que il fallait que ce pipeline-là se fasse pour développer de nouveaux marchés pour le pétrole de l'Alberta. Et plus globalement, la surprise vient aussi du fait que, tu sais, il y a à peine 3 ans, le gouvernement était conservateur et en campagne électorale, Justin Trudeau était le champion de l'économie verte, était anti-hydrocarbures. Il n'était pas anti-hydrocarbures, mais il n'était pas à ce point pour le développement des hydrocarbures. Et là, le gouvernement du Canada, sous Justin Trudeau, vient de prendre une décision que n'aurait pas renié, selon moi, un gouvernement conservateur de Stephen Harper.
Oui, mais là, c'est la stratégie électorale qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que Justin Trudeau a aucun siège à perdre en Alberta, il n'y en a pas. Il y en a, par exemple, en Colombie-Britannique, qui, eux, s'opposent à cette idée de pipeline. Aide-moi là à voir le calcul.
Comme toi, je regarde les nouvelles et comme toi, ce que je vois, ce sont des activistes qui sont évidemment contre le développement du pipeline. Des activistes, mais aussi des gens qui habitent sur la côte de Colombie-Britannique, sur le littoral, et qui redoutent là des déversements. T'sais, on sait que les pipelines, c'est pas étanche à 100%. Donc, d'un côté, t'as les gens qui sont toujours qui s'objectent toujours au développement pétrolier. De l'autre, les gens qui habitent sur la côte, qui ont un paysage fantastique et qui se disent, on veut pas scraper ça. Mais quand tu regardes les chiffres colombo-britanniques, au-delà des manchettes, il y a une majorité de Britanno-Colombiens, me semble-t-il, qui sont pour le pipeline. Donc, c'est pas tout le monde en Colombie-Britannique qui est contre ça. À l'intérieur de la Colombie-Britannique, ce qu'on appelle le mainland, il y a des gens qui sont pour. Et la Colombie-Britannique aussi, oublie pas ça, c'est un marché électoral extrêmement concurrentiel. Il y a des conservateurs, il y a des libéraux, il y a des néo-démocrates. La députée verte, la chef du parti vert, Mme May, est élue là-bas. Moi, je pense que c'est pas aussi monolithique qu'on peut le penser, le marché électoral là-bas. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait le pari, les libéraux, qui peuvent aller chercher plus de votes, plus de sièges, qui vont en perdre en nationalisant le pipeline pour sortir le pétrole de l'Alberta et donner un nouveau marché. Donc, mais là où ça détonne, c'est que mondialement, le Canada est pro-traité de Paris, le Canada est pro-énergie verte. Moi, je vois la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, s'activer sur Twitter et un peu faire la leçon à tout le monde pour ce qui est de la transition, de l'éloignement d'une économie lourdement marquée par le carbone. Bien, aujourd'hui, regarde ça de toutes les façons que tu veux, ce que ça va faciliter, c'est sortir plus de pétrole du sous-sol albertain. Donc, est-ce que c'est bon pour l'économie canadienne? Oui, c'est bon pour l'économie canadienne parce que il y a une grande partie de la richesse, de la nouvelle richesse créée au Canada qui vient directement de ce qu'on extrait du sol. Ça, on peut ne pas aimer ça, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est bon pour la planète? C'est certainement pas bon pour la planète.
Patrick, juste avant qu'on commence l'émission à 14h cet après-midi, la controverse qui touche l'émission Roseanne aux États-Unis a atteint un autre niveau, c'est-à-dire que le réseau ABC a tout annulé et ils n'iront pas de l'avant finalement avec la deuxième saison. Alors, c'est vraiment un tweet qui est à l'origine de tout ça. Raconte-nous comment tu interprètes ce qui s'est passé.
Ben c'est ça, Roseanne Barr, qui est une célébrité, une comédienne très connue aux États-Unis, qui a eu, tu sais, je pense les années 90, la première mouture de son sitcom Roseanne, très populaire. Et là, bon, ça avait été ressuscité par ABC, première saison très payante. Je pense que dans quand on regarde les émissions de fiction des grands réseaux comme ça, je pense que c'était la troisième plus écoutée avec This Is Us puis Saturday Friday Night Lights. Et là, on sait qu'elle est, comment je te dirais, elle est dans la brigade un peu conspirationniste de Twitter. Hein? Elle fait partie de ces gens qui pensent que le milliardaire hongrois George Soros contrôle à peu près toute sa planète. Elle est dans les théories du complot selon lesquelles Soros a été un collaborateur nazi dans son adolescence dans l'Europe occupée. Donc, ce genre de saleté-là, mais bon, ça fait pas d'elle une moins bonne comédienne. Et là, elle envoie à propos de Valerie Jarrett, qui est une ancienne conseillère du président Obama, qui est fille de deux afro-américains nés en Iran parce que son père était stationné là-bas là, pendant la dictature du Shah. Elle envoie un tweet où elle dit, ben, écoutez, Madame Jarrett, là, c'est ce qui arrive quand un enfant est créé, un enfant est né d'un croisement entre les frères musulmans et la planète des singes. Évidemment, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au fait qu'elle est née dans un pays musulman de parents américains par ailleurs. Et la vieille saloperie qu'on envoie à la gueule des Noirs, c'est-à-dire que parce que t'es noir, tu ressembles à un singe. Et là, écoute, très rapidement, elle a envoyé un tweet pour s'excuser quand la controverse a commencé. Et ABC, par la voix de sa directrice de programmation, a annoncé que on tirait la plug sur l'émission pour la saison 2. Et écoute, il y a une part de, comment je te dirais, il y a du courage de la part d'ABC là-dedans parce que économiquement, ça va leur faire mal parce que c'était la sitcom Roseanne saison 2 là, du Revival était la pièce maîtresse de la programmation de ABC. Quand on a fait le pitch aux annonceurs là, il y a quelques semaines, la sitcom était au centre de la stratégie. Et c'est une stratégie qui vise à engranger, selon le New York Times, 9 milliards de dollars. Évidemment, c'est pas Roseanne qui allait chercher ça. Mais c'est sûr que quand tu as une sitcom comme ça, qui est la troisième dans ce genre de show-là, tu vas chercher aux États-Unis, le marché est grand, beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus de pub. Eh bien là, ABC vient de renoncer à ça en prenant une décision qui est très morale et très juste.
Patrick, les États-Unis, c'est un pays que tu connais pas mal plus que moi. Tu y vas, tu voyages là-bas, tu as rencontré des gens là-bas. Comment ça se fait qu'en 2018, le racisme est encore si présent aux États-Unis et que maintenant, sur les réseaux sociaux, sur des tribunes, dans des lignes ouvertes à la télé, des commentateurs, des gens sont capables d'être racistes et ne se cachent même plus?
Ben écoute, je pense qu'il y a un fond. Puis en fait, c'est pas juste un petit fond là, c'est pas juste un cerne dans le fond du verre. Ça fait partie de l'histoire américaine. Cette mauvaise conscience face aux Noirs. C'est un pays qui a été bâti sur l'esclavagisme. C'est un pays qui a longtemps officiellement et légalement fait de ses citoyens noirs, des citoyens de seconde zone. C'est dans les années 60, avec la lutte pour les droits civiques, que ça a commencé à se rétablir. Mais dans la psyché de plusieurs Américains, ce sont encore les Noirs des citoyens de seconde zone. Et moi, je pense que la montée du Trumpisme a envoyé un signal. Tu sais, Donald Trump ne s'est pas éloigné de certains courants extrémistes nationalistes blancs. Je veux dire, quand David
Duke... Après Charlottesville, on l'a entendu clairement.
Même avant ça, pendant qu'il était candidat à la présidence américaine, David Duke, qui est un des chefs historiques modernes du Ku Klux Klan, qui est pas une organisation... Il y a encore des gens qui se réclament du Ku Klux Klan. David Duke avait envoyé le signal que, hey, ce gars-là, Donald Trump, a d'excellentes politiques. Et quand tu regardes les positions de David Duke et de ses amis, c'est très pro-blanc, c'est très anti-minorité, c'est très anti-noir, évidemment. Et Donald Trump a mis des jours et des jours à se distancer de David Duke. A commencé par dire qu'il ne le connaissait pas. Et quand il s'en est distancé très mollement. La théorie, c'est qu'il voulait pas envoyer le signal à ces gens-là, à ces blancs-là, qui se réclament des idées du Ku Klux Klan, qu'ils n'étaient pas, qu'ils voulaient pas leur vote. Donc, ouais. Est-ce que c'est un calcul électoral ou c'est ce qu'ils pensent vraiment? Je le sais pas. Mais l'effet net, c'est que, écoute, depuis plusieurs mois, depuis quelques années, puis ça coïncide avec la montée du Trumpisme, ben, les gens qui se cachaient, ils se cachent de moins en moins. Il y a une montée de la twittosphère d'extrême droite. Il y a des médias d'extrême droite qui ne se cachent plus, qui ne s'excusent plus. Puis là, après ça, c'est la vieille question. Est-ce que Trump est un symptôme de ça? Ou est-ce qu'il est une cause de ça? Mm. Je le sais pas, mais moi je constate de mon vivant là, tu sais, oui. J'aime la politique américaine depuis longtemps. J'ai jamais vu une époque où il y avait une telle désinhibition à émettre des idées qui sont considérées comme racistes.
Ouais. Ça veut dire que en 2008 puis en 2012, quand ils ont élu un président noir, c'était pas assez pour changer les choses.
Ben, c'est dur de dire parce que faut pas oublier un truc. Donald Trump a été élu par le collège électoral. Tu sais, il y a comme une aberration historique. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu gagnes le vote populaire, tu gagnes aussi le vote électoral. Et là, il a perdu le vote populaire. Je pense que c'est par 2 millions de voix. Et il a gagné le collège électoral. Donc, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont maintenant racistes? Moi, je trouve que c'est gros. C'est très gros de dire ça. Mais présentement, les gens qui sont pas farouchement antiracistes, ben, ils sont aux commandes.
Merci beaucoup, Patrick.
Hey, salut.
Merci pour la discussion. Patrick Lagacé, qui est chroniqueur à la presse et à qui on parle les mardis.